Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme Votre santé un trésor. Nous recevons aujourd'hui le pasteur François Claveroli qui, je pense, a un rôle important au sein de la communauté protestante. En effet, il a présidé de 2002 à 2007 la communion protestante luthéro-réformée, instance de concertation entre l'Église évangélique luthérienne de France et l'Église réformée de France, où il a joué un rôle de premier plan dans le rapprochement de ces deux églises qui a abouti à la création en 2013 de l'Église protestante unie de France. Le 1er octobre 2013, il a été élu président de la Fédération protestante de France et depuis 2015, François Claveroli assure la présidence de la Conférence des responsables de culte en France. Bonjour à vous, monsieur le pasteur, et bienvenue aujourd'hui avec nous dans l'émission Votre santé un trésor que nos auditeurs découvrent sur Radio Alliance Plus.
Bonjour.
Pouvez-vous, dans un premier temps, mieux vous présenter que ce que je l'ai fait et nous parler de vos multiples missions et engagements ?
Peut-être dire juste que grâce à ce ministère pastoral de l'Église protestante unie, j'ai eu la chance d'être au carrefour des dialogues importants entre différentes confessions chrétiennes d'une part et entre différentes religions, notamment donc l'islam et le judaïsme en particulier.
Oui, vous êtes très investi dans les relations interreligieuses, et notamment entre l'islam, le judaïsme et les chrétiens.
Exactement, et ça a été un bonheur de découvrir au fond qu'en France, dans une république laïque, la parole des religions est importante, fait sens, et peut-être aussi une ressource pour ceux qui les écoutent avec attention.
Alors, je suis obligé de le dire quand même, parce que vous venez d'être élu président de l'Université populaire des religions de Nîmes. C'est une nouvelle institution qui a sa place sur Radio Alliance Plus. Dites-nous deux mots de cette nouvelle institution universitaire populaire.
Je crois que l'idée générale, c'était de dire, au fond, les religions sont l'objet de fantasmes, de critiques, d'avis, d'opinions de toutes sortes, mais le fait religieux n'est pas suffisamment l'objet d'une étude, d'un savoir. Et donc, l'Université populaire des religions s'adresse à quiconque pour que le fait religieux puisse être un objet de savoir et d'étude indépendamment de toute forme de prosélytisme ou de discours confessionnel, de gauche ou de droite, enfin, protestant, catholique, juif ou musulman. Mais voilà, que l'étude soit à la portée de tous, et c'est la raison pour laquelle ce mot de populaire, nous y tenons beaucoup, de sorte que chacun peut avoir accès à cet enseignement, qui est un enseignement de qualité, un enseignement académique qu'on veut mettre à la portée de chacun.
Voilà, donc on invite beaucoup de gens à venir rejoindre l'université, à participer, à s'inscrire, à suivre les cours, comme vous l'avez dit, qui sont de très, très, très bonne qualité, de très haute qualité universitaire. Alors ma première question à vous, pasteur et théologien protestant, est-ce que Dieu se préoccupe de notre santé ?
Dieu se préoccupe de nos vies avant même que nous le sachions, avant même que nous naissions, et il s'occupe de nous bien au-delà de notre existence ici-bas, de sorte que, alors là je me réfère au fond à toute une série de textes bibliques, notre vie est précieuse aux yeux de Dieu, hein, nous sommes aimés par lui, même si nous ne le savons pas, même si nous n'avons pas conscience. Je pourrais même dire un peu plus loin en forme de boutade, mais une boutade qui fait sens au plan théologique. Nous croyons en Dieu, mais Dieu croit en nous bien plus que nous ne croyons en lui.
Alors pour le médecin que je suis, quand on voit des patients qui sont atteints de pathologie, pourquoi moi, pourquoi le mal, pourquoi ils se révoltent ? Vous, en tant que pasteur et théologien, parce qu'on peut être théologien, mais pas pasteur. Donc vous êtes pasteur, c'est-à-dire que vous êtes en contact avec les gens. Hein, pas être théologien dans sa bulle et étudier des textes, mais être jamais en relation avec l'humain, avec l'autre. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette question du mal, de la maladie, de la finitude, de la souffrance, de la douleur ?
Il y a deux manières d'aborder ce sujet, parce que c'est un sujet évidemment immense. Il y a une manière, j'allais dire, comme en surplomb, un discours qui serait un discours de sachant, de savoir, un discours de théologien qui a longuement réfléchi sur ces questions et qui va vous dire exactement ce qu'il faut croire ou ne pas croire. Et puis il y a un discours, une manière d'aborder le sujet en jeu, en disant « moi je ». Et pour ce qui concerne le mal et la maladie, puisque c'est votre question,
voilà,
j'ai toujours essayé de répondre en « je ». parce que chaque personne à qui vous vous adressez sur cette question-là a eu, d'une façon ou d'une autre, à traverser la question du mal et de la maladie, soit dans sa vie personnelle intime, soit parmi ses proches, ses plus proches, ses amis, ses enfants ou ses parents. Et donc il y a là, je crois, dans l'approche personnelle individuelle, quelque chose qui fait sens pour chacun. Et c'est cette veine-là de réflexion, donc au fond une théologie inductive, enfin qui part de l'expérience de chacun, qui me semble la plus pertinente.
En fait, vous adressez pas à la maladie, mais vous adressez à la personne qui est malade, oui, dans sa globalité. C'est un mot que les universitaires en médecine ont horreur, c'est une manière holistique. C'est un terme qui est banni de la faculté de médecine, mais qui est quand même fondamental.
Et c'est vrai que c'est une tentation à laquelle beaucoup de scientifiques n'ont pas su résister, que d'objectiver le mal. Alors évidemment, il faut avoir un accès à la maladie par le savoir, par la connaissance, et donc effectivement, il faut une certaine distance. Mais lorsqu'on parle de la maladie sur les questions de sens, alors là, je crois que, comme vous le dites, il faut avoir une vision, une compréhension global, holistique, c'est le mot un peu savant pour cela, mais enfin c'est bien de ça qu'il s'agit, de sorte que nous ne parlons pas du mal comme une espèce de réalité extérieure qui nous tomberait sur la tête et pour laquelle nous ne sommes en rien responsables, mais vraiment comme une expérience de vie. Au fond, tout être humain a à connaître cette expérience du mal. Et les textes bibliques, de A jusqu'à Z, nous racontent cette histoire-là. C'est que nous sommes appelés à vivre l'existence humaine dans ses bons et ses mauvais jours, dans ses bons et ses mauvais moments, comme voilà, l'occasion de mieux se connaître soi-même, de mieux connaître l'autre et de mieux connaître donc celui qui conduit nos vies.
C'est ce qu'on peut reprocher aux médecins, de s'occuper de la maladie, de la personne portant la maladie, mais pas de la personne malade. C'est trois choses différentes. Et on m'a souvent fait le reproche, parce que, évidemment, j'étais en face de gens. Mais c'est vrai que les médecins sont un peu... Il faut s'occuper de l'autre, de sa souffrance, de son expérience. Quelles sont les approches protestantes sur le thème de la foi et de la maladie, de la foi et de la santé?
Oh, je crois qu'on est exactement à l'image de la plupart des personnes de nos contemporains. Enfin, sur ces questions-là, il y a l'attitude la plus classique, qui consiste à dire, au fond, la maladie est l'expression d'un mal, d'un péché, d'un désordre personnel. Et alors, à ce moment-là, il y a une responsabilité humaine qui est engagée. Et il est possible de réparer ce désordre par toute une série de pratiques, de rituels, de je ne sais pas quoi, d'attitudes, etc. Mais il y a aussi une autre manière de comprendre le mal et la maladie, comme justement, je l'évoquais à l'instant, une espèce de déjà-là de la vie, de déjà-là de l'existence, un peu à l'image d'ailleurs, vous savez, de ce serpent dans le jardin d'Éden. Hein, il y a un déjà-là de quelque chose qui ne va pas.
Oui, c'est ça.
Et avant même qu'on s'interroge sur les tenants et les aboutissants, il est important de se dire, voilà, il n'y a pas un avant où tout aurait été bien, et puis un après dans lequel nous serions tombés, et alors à ce moment-là, il faudrait régler les comptes. Qui nous a poussés, qui est responsable, qui a fait les choses de sorte que... Non. Non, il y a un déjà-là. C'est le destin de notre vie. C'est notre destinée que de vivre avec le mal, avec la maladie, et de traverser cette épreuve, un peu à l'image d'ailleurs de l'Exode, hein, qui est une forme biblique de la symbolique, de la traversée du mal, pour aller vers une terre promise.
Alors c'est important, dans ce que vous dites, c'est ce côté personnel et non pas de rendre responsable quelqu'un, ce qu'on retrouve beaucoup actuellement en psychologie et en psychothérapie, c'est-à-dire qu'il faut trouver le coupable du mal-être, et donc une personne, on cristallise bien souvent la personne. C'est un événement de vie, de nos vies. J'ai pu lire dans un document, Théologie protestante de la santé, un état de la question, rédigé par Olivier Bauer, professeur ordinaire de l'Institut Lémanique de théologie pratique de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne, que la théologie prend en compte la réalité effective de la souffrance et en même temps se révolte contre elle et se montre solidaire de celles et ceux qu'elle affecte. Paul Tillich caractérise cette attitude comme un courage d'être, car l'acceptation, en dépit d'eux, relève du courage et non de la résignation. Que pensez-vous de cette situation? Pouvez-vous nous l'expliquer, nous qui pouvons vivre des souffrances?
Oui, c'est bien exactement dans cette ligne-là que la réforme, le protestantisme en général, a pensé la question de la souffrance avec cette idée qu'elle n'a pas de sens, on va dire purificateur ou salvateur d'une façon ou d'une autre, qu'elle est souffrante et éprouvante pour l'être humain. Et qu'elle est qualifiante au fond, elle permet de qualifier précisément la vie qui est notre destinée commune. Il n'y a pas de mérite à travers la souffrance, il n'y a pas de mérite particulier qui serait le fruit d'une souffrance, et la souffrance est à combattre, la souffrance est un mal à combattre. Et certains même vont jusqu'à dire que la souffrance n'a pas de sens, au sens théologique du terme. Elle est cette épreuve qu'il faut combattre, traverser, surmonter. C'est notre destinée.
Alors vous pensez qu'elle n'est pas la résultante d'une faute ou de ce qu'on pourrait appeler un péché. Elle est d'une expérience de vie qui fait partie d'une maturation. Hein, puisque...
C'est exactement ce que je pense, oui.
Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne responsable mais c'est une épreuve de vie qui fait qu'en fait c'est une marche, et comme toute marche, ben il faut la grimper, et c'est difficile de grimper une marche, c'est fatigant, hein, c'est fatigant de monter les escaliers. Une maladie, bon, évidemment si une maladie mortelle c'est la dernière marche, mais une maladie c'est une marche à monter, donc une affection, mais qui fait partie de l'ensemble de l'escalier de notre destinée.
Je peux prendre deux exemples pour illustrer ce propos que vous tenez et qui est aussi le mien. C'est l'exemple de l'apparition du sida aux États-Unis, puis ensuite en Europe, à la fin des années 70, et la dernière pandémie du Covid. À l'époque du sida, de l'apparition du sida, vous vous en souvenez sans doute, une certaine compréhension de la maladie, nous faisant comprendre donc qu'il y avait des coupables, a autorisé certaines personnes, et non des moindres, à mettre en accusation une partie de la population.
Bien sûr.
En disant, voilà, si cette maladie existe, c'est à cause de ces personnes. De la même façon, pour l'apparition du Covid, vous vous en souvenez encore, ceux qui ont cette compréhension de la maladie ou de la souffrance comme étant une punition ou un châtiment, il a été facile de dire, mais écoutez, cette maladie est due à... Et alors là, c'est le pangolin qui a pris, qui a pris cher, si je peux dire, mais c'est aussi les Chinois, c'est aussi tel ou tel, enfin bref, la thématique du bouc émissaire a bien fonctionné. Là,
vous voyez, il faut un responsable.
Voilà, il faut un responsable. Et plus qu'un responsable, il faut un coupable, un responsable coupable.
Oui, coupable.
Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que devant la maladie, cette réaction qui est bien naturelle, enfin qui est compréhensible, n'aboutit à rien. Et justement, contribue à donner sens à la maladie, alors que précisément, l'important c'est de lutter contre elle et de trouver les moyens les plus scientifiques, les plus raisonnables, les plus efficaces, au lieu de lancer des rumeurs et d'entrer dans des théories du complot.
Je vous propose une trêve musicale avec « Oh Dieu, tu es grand » de Christ Tonning.
Se réjouit, il est
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui le pasteur François Claveroli. Vous qui avez été aumônier des prisons de la région Nord, vous connaissez le rôle des aumôniers dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Le rôle est d'écouter et d'accompagner tous ceux qui en font la demande, peu importe leur croyance. Les aumôniers protestants des hôpitaux sont des spécialistes de l'accompagnement spirituel et de l'écoute, formés et recrutés par la Fédération protestante de France. Mais que font-ils concrètement ?
Peut-être faut rappeler l'origine des aumôneries. Les aumôneries sont nées au fond de la loi de 1905. La loi de 1905 permet légitimer, de fortifier ce qu'on appelle la liberté de culte. Et la liberté donc de l'exercice du culte. Et il existe des lieux fermés dans lesquels l'exercice du culte peut ne pas être rendu libre. Et je pense en particulier aux prisons, à l'armée et aux établissements sanitaires et médico-sociaux. Et la loi de 1905, dans sa grande sagesse, a autorisé les églises, donc ici en l'occurrence les églises catholiques et protestantes, mais aussi les autres cultes, à permettre aux personnes qui étaient dans des lieux fermés d'exercer leur culte. Et donc des aumôniers ont pu entrer dans les prisons, ont pu entrer dans les hôpitaux, ont pu entrer dans les cercles militaires pour faire en sorte que là où il n'y avait pas accès librement au culte, eh bien, ce sont les cultes qui puissent accéder et faire cette offre de culte à des gens qui ne pouvaient pas, qui étaient donc... je pense aussi aux internats, à l'époque des internats des lycées, où les jeunes ados n'avaient pas accès au culte. Et petit à petit, ce travail des aumôniers s'est professionnalisé, s'est enrichi de toute une série d'actions, et notamment à travers l'écoute active, à travers l'accompagnement spirituel, à travers le partage des expériences, notamment dans les établissements sanitaires et médico-sociaux où, et on revient au sujet de tout à l'heure, les personnes malades, les personnalités, les personnes en dépendance attendaient de l'Église une parole de réconfort, mais plus qu'une parole, évidemment, une présence. Et au fond, nous pourrions dire aujourd'hui que les aumôneries sont l'expression d'une présence humaine et chaleureuse, spirituelle, efficace dans le sens où elle est porteuse, cette présence d'une parole évangélique qui fait sens au moment où la vie paraît précisément enfermée, sans issue, et parfois même dramatiquement compromise. Je pense en particulier aux personnes en fin de vie.
Vous avez évoqué l'écoute active pour nos auditeurs. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer ? Vous l'avez pratiqué, les aumôniers pratiquent. Il y a une écoute active psychologique et médicale, mais au niveau d'un pasteur,
oui,
d'un aumônier.
Oui, c'est un peu ce dont il s'agit, c'est-à-dire non pas simplement l'écoute d'un patient ou d'une personne qui voudrait se confier, mais l'apprentissage d'un dialogue de confiance, de sorte que l'écoutant restitue ce qui a été dit, le reformule et fasse avancer le patient dans sa quête. Et donc il y a une interaction psycho-affective, mais aussi spirituelle, qui permet d'évoluer, de sorte que une personne sur un lit d'hôpital ou bien un détenu dans une cellule ne reste pas au même point de son évolution à la fin de la première visite, mais que de visite en visite, cette personne évolue et se rende compte précisément qu'elle a un chemin, qu'il y a un chemin possible vers une libération au sens le plus spirituel du terme.
Alors, vous avez employé le terme spirituel. La différence entre l'écoute active qu'on peut faire en psychologie, en médecine, et l'écoute active d'un aumônier, mais le spirituel, comment il est introduit dans une relation avec quelqu'un ?
C'est une très bonne question que vous posez là, et c'est au fond la liberté de l'écoutant, la liberté de l'aumônier qui est ici qualifié pour cela, d'assumer dans son dialogue avec la personne la dimension spirituelle, la dimension confessionnelle, la dimension religieuse. Donc voilà, c'est une liberté que peut s'autoriser l'aumônier précisément parce qu'il est là, parce que la loi l'y autorise en tant qu'aumônier, et pas simplement en tant que médecin ou psychologue ou écoutant ou visiteur, mais en tant qu'aumônier.
Alors les médecins, évidemment, doivent se retenir de ça et ne pas faire ça dans leur pratique, d'où l'importance des aumôniers. Alors, quelles sont les relations entre les soignants et les pasteurs? Comment peuvent s'articuler ces deux orientations qui ont finalité le bien-être du patient?
Alors là, il y a une question à double niveau. Je dirais, pour ce qui concerne l'aumônerie des hôpitaux et l'aumônerie des prisons, les aumôniers sont certes aumôniers des patients et aumôniers des détenus, mais à bien des égards, ils peuvent être aussi partenaires des surveillants et partenaires du personnel médical. Je pense en particulier à la participation possible de certains aumôniers dans des commissions éthiques, dans des dialogues de professionnels de la santé. Et puis en prison, je pense aussi au fait que l'aumônier peut très bien être un interlocuteur de certains surveillants et même un interlocuteur de la direction de l'établissement pénitentiaire dans certaines situations. Donc ça, c'est le premier niveau. On pourrait dire les aumôniers ne sont pas seulement en lien avec les patients et les détenus, ou les militaires, mais aussi avec le personnel médical, le personnel de surveillance, ou le personnel encadrant dans l'armée, enfin les officiers, etc. Et puis le deuxième niveau, c'est de dire les aumôniers portent une parole de l'Évangile. Là, je parle des aumôniers chrétiens. Et donc, cette parole-là, elle est spécifique, elle est très singulière. Il ne s'agit pas de convertir, il ne s'agit pas de utiliser la présence de l'aumônier, par exemple, dans un hôpital ou dans une prison pour qu'il puisse convertir tout le monde. D'ailleurs, ce serait bien étonnant qu'on convertisse tout le monde, ça se saurait, enfin, si ce genre de pratique se faisait, mais il est autorisé à parler de l'Évangile dans ce dialogue qu'il a, ce dialogue de personne à personne, avec les patients, avec les détenus ou avec les militaires qui sont dans les différents lieux que l'armée leur réserve.
Et alors je peux vous dire, pour un témoignage, que les soignants ont aussi besoin des aumôniers.
Voilà, exactement.
En tant que personne
exactement,
aussi.
Exactement.
Alors la théologie de la santé débouche sur des pratiques chrétiennes pour la santé. En protestantisme, suivant certains auteurs, elle relève de deux types. En premier lieu, un accompagnement centré sur le dialogue et quelques rites intégrant des gestes symboliques. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous en dire plus ?
Dans la pratique protestante, il y a relativement peu de rituels, vous le
voilà,
savez bien.
Oui. Hein.
Nous n'avons pas de matériel particulier. J'ai une anecdote que je peux raconter, mais qui va faire sourire quelques-uns ou grincer des dents d'autres. Lorsque j'étais jeune aumônier de prison, lors de ma deuxième ou troisième entrée dans l'établissement, j'avais prévu de célébrer la Sainte Cène.
Oui.
Et donc, j'étais entré dans la prison avec une baguette de pain, une bouteille de vin, un tire-bouchon et un couteau. Et c'était avant l'époque des portiques, c'est-à-dire que voilà, l'établissement où j'allais n'était pas encore équipé en portique, mais j'ai été fouillé. Et évidemment, le surveillant m'a dit « Écoutez, monsieur le pasteur, vous êtes bien gentil, mais là, je vous demanderai de laisser tout cela et de revenir la semaine prochaine pour célébrer l'Eucharistie, mais avec d'autres moyens. Voilà, vous vous débrouillez autrement.
» Eh bien, monsieur le pasteur, je vous remercie d'avoir partagé avec nous votre expérience et votre engagement. Je sais que vous êtes en retraite, mais une retraite très active, comme nous l'avons dit, bien remplie, si vous me permettez, cette expression notamment Niman, hein, cette nouvelle université populaire des religions. Donc vous êtes le nouveau président, merci encore à vous. J'ai l'habitude de clore cette émission par une rubrique de fin d'émission des livres sur la santé aujourd'hui. J'ai demandé au pasteur Claveroli de nous citer quelques livres qu'il affectionne.
Pour aujourd'hui ?
Oui.
Là, vous me prenez de court.
Oui. Alors, nous allons dire la Bible. C'est déjà un grand point.
Alors oui, si, il y a quand même... c'est un livre de Thomas Römer, qui est très très bref, et qui est intitulé « La Bible, qu'est-ce que ça change ?»
Ah oui, j'étais pas loin.
Et oui, et c'est remarquable.
Alors Thomas, il faut toujours revenir aux
Thomas
écritures.
Thomas Römer enseigne au Collège de France. Il a eu un parcours incroyable au plan universitaire. Et c'est un spécialiste de la Bible hébraïque. Et il a le sens de la synthèse, comme j'aurais aimé l'avoir. En quelques pages, il vous donne l'essentiel de ce que la Bible peut changer dans le regard de quelqu'un qui découvre ce genre de texte, ce genre de littérature.
Oui, mais les saintes écritures vont à l'essentiel, bien souvent, même si le livre est épais, le livre est rempli d'essentiel. Je remercie Louis à la technique et Chanel Visuel. Je vous renouvelle aussi mon annonce sur l'adhésion Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre santé. Un trésor sur Radio Alliance Plus, sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien-dévoué.